Bonsoir à tous. Un symbole du débarquement aujourd'hui vaincu par l'érosion. Une partie de la pointe du Hoc s'est effondrée dans le Calvados et c'est un bout de l'histoire qui s'en va. Après des années de querelles, la gauche s'est donc unie, mais au-dessus, les anciens socialistes, aujourd'hui dans la majorité, tendent la main. L'actualité, c'est encore l'Ukraine. Reportage aux côtés des réfugiés de Zaporijjia et après 2 mois d'enquête, le rapport accablant d'Amnesty International sur les crimes de guerre. On vous expliquera pourquoi des millions de doses de vaccins contre le Covid se retrouvent à la poubelle. Et puis le choix culture du vendredi, du théâtre et de l'amour avec Philippe Torreton et Anne Brochet. Et au téléphone sonne Claire.
Eh bien, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les législatives sans jamais oser le demander, c'est ce soir. Au téléphone sonne, on parlera du mode de scrutin de ces élections qui auront lieu les 12 et 19 juin. On parlera du mandat des députés, de leur façon de travailler entre le Palais Bourbon et leur circonscription. On abordera la question du travail en commission, la pression des lobbies, mais aussi la mainmise de l'exécutif sur le travail parlementaire. Alors n'hésitez pas à nous appeler, le numéro, vous le connaissez, 01 45 24 7000.
France Inter. Elles sont depuis longtemps soumises à rude épreuve, ces falaises calcaires du Calvados. Mais voir le rocher symbole de la pointe du Hoc s'effondrer, c'est redouter la disparition d'un paysage que l'on pensait immuable, l'un des hauts lieux du débarquement des Américains le 6 juin 1944. Bonsoir Ajra Mohamad.
Bonsoir.
Ce pan de la falaise qui s'est écroulé ce matin, c'est une partie de cet éperon pointu qui s'avance vers la mer et c'est bien à cause de l'érosion.
Oui, une pointe rocheuse haute de 30 mètres quasiment, grignotée elle aussi par la mer. C'est un phénomène bien connu sur le littoral normand. D'ailleurs, cet effondrement n'est pas vraiment une surprise. L'AMBC, l'organisme américain qui gère le site de la pointe du Hoc depuis 1956, explique avoir été alerté dès 2011 de ce danger. Et malgré les travaux de consolidation entrepris, impossible de stopper ce grignotage. D'ailleurs, pour Marc Laurenceau, historien spécialiste du débarquement, joint par France Bleu Normandie, il va falloir anticiper. La suite.
C'est en fait l'intégralité de la pointe et des falaises qui sont menacées à moyen terme. Ça va condamner certainement la pointe, en tout cas le site historique de la pointe du Hoc, dans les 30 années à venir. Aujourd'hui, il va falloir s'habituer évidemment à ces changements. Il va falloir trouver comment continuer à donner, à partager cette mémoire. Malgré ces changements, commémorer différemment cette cérémonie de la pointe du Hoc.
Parce que la pointe du Hoc, c'est un vrai symbole dans l'histoire militaire américaine, celui de la bravoure de ses soldats. L'épisode a même été rejoué en 1962 dans le film Le jour le plus long.
You mean to tell me that's all we gotta climb?
They're not as high as the ones we've been practicing on.
They wasn't shooting at us then.
Imaginez le 6 juin 1944, 7h du matin et 225 Rangers qui se lancent dans l'ascension de cette pointe avec des cordes sous la pluie et les tirs allemands. Leur objectif, détruire des pièces d'artillerie nazie abritées sur cette falaise. Une mission accomplie en 5 minutes, mais ce jour-là aussi, 90 soldats américains perdent la vie.
Ajra Mohamad, et contre l'érosion qui touche une bonne partie du littoral, une centaine de communes va devoir agir. Le gouvernement vient de publier la liste de ces villes soumises à la loi Résilience et Climat. Elles auront à cartographier les zones à risque à 30 et 100 ans et décider d'aménager, d'adapter leur territoire pour ralentir l'érosion.
Une nouvelle opération d'évacuation de civils est en train d'être tentée à Mariupol autour de l'usine Azovstal.
Il y aurait encore des dizaines de civils piégés dans l'immense aciérie. Mariupol, l'un des champs de bataille les plus sanglants de cette guerre. Les Ukrainiens accusent d'ailleurs les Russes de tirer au moment des évacuations. Près de 500 personnes ont tout de même pu être exfiltrées ces derniers jours. La plupart trouvant refuge à Zaporijjia. C'est le reportage de nos envoyés spéciaux Mathilde Deuil.
Le Kazakh Palace est devenu le nouveau centre d'accueil des réfugiés de Zaporijjia, plus petit que le précédent. C'est l'heure de la distribution alimentaire. À côté de la longue file d'attente, Anatoli, 70 ans, dépose sa vie, 8 sacs plastiques et les cages de son chat et de son canari.
On est d'un village à mi-chemin entre Mariupol et Zaporijjia. On nous a dit d'évacuer car les Russes tiraient à l'arme lourde.
Les bombardements s'intensifient sur la zone, compliquant encore plus les évacuations des habitants de Mariupol. Igor tente de sortir ses parents.
Ma mère ne peut pas marcher, mon père est presque aveugle. Ils ne peuvent pas s'orienter dans la ville. Mes amis devaient les aider à joindre le point de départ du convoi, mais ça n'a pas marché.
À 7 km de là, dans une rue tranquille, un immeuble accueille l'équipe d'Azovstal. C'est ici que les salariés seront immédiatement pris en charge après leur évacuation. Ivan, l'un des directeurs réfugiés, supervise les opérations.
Quand ils arrivent ici, on leur propose de voir des psychologues, des médecins. Ils reçoivent toute l'aide dont ils ont besoin.
Besoin aussi de les informer, complète Ivan, car quand les premiers évacués d'Azovstal sont arrivés, ils pensaient qu'on les avait abandonnés à cause de la propagande russe, dit-il.
Reportage signé Mathilde Dehimi et Eric Audra. Et pendant ce temps, les ONG continuent de documenter les crimes de guerre. 2 mois d'enquête pour Amnesty International, des dizaines de témoignages recueillis et de nouvelles preuves de crimes commis par les forces russes dans la région au nord-ouest de Kiev. Le rapport a été présenté aujourd'hui dans la capitale ukrainienne où se trouve Agathe Mahué.
Le constat, lui, est déjà connu. 300 civils tués rien qu'à Boutcha. Et partout dans les villages autour de Kiev, occupés en mars par les Russes, des récits, des photos de cadavres rassemblés par ces enquêteurs de l'ONG, offrant autant de preuves irréfutables de crimes de guerre. Voilà ce que dit Amnesty. Mais comment en désigner les responsables? C'est tout l'enjeu pour la secrétaire générale Agnès Callamard.
Le plus difficile, ça va être d'identifier les individus qui sont responsables de ces crimes de guerre. Parce que d'abord, il y en a beaucoup qui vont disparaître, on ne va pas pouvoir les retrouver. Peu peuvent être identifiés sur la base de photos ou de quoi que ce soit. Donc ça va être le problème numéro un. On essaye aussi de préserver ces preuves le mieux possible, parce que ces immeubles en particulier vont être détruits. Donc ça veut dire des informations vont disparaître.
Des preuves matérielles déjà collectées aussi pour certaines, comme ces balles ramassées à Borodianka qui permettent de remonter jusqu'aux fusils d'assaut spécifiques à certaines forces d'élite russes, armes que n'utilisent pas les Ukrainiens. C'est ce travail essentiel qui se poursuit. Amnesty en appelle par ailleurs à ce que les auteurs de ces crimes soient traduits en justice lors de procès équitables et indépendants.
La guerre en Ukraine et les sanctions de l'Europe. On a compris que la Hongrie, très dépendante du pétrole russe, s'opposait à un embargo. C'est même une ligne rouge que l'Union veut franchir, juge aujourd'hui le Premier ministre hongrois Viktor Orban.
On en arrive aux législatives que la gauche aborde pour la première fois depuis 25 ans de manière unie.
Le Conseil national du PS a validé l'accord avec la France insoumise hier soir à 62% après 4 heures de débat. Changement de stratégie historique qui ne fait pas que des heureux pour ces quelques sortants qui n'auront pas l'investiture, pour des départements comme l'Hérault ou la Corrèze, pourtant terre socialiste, privée de candidats. Il y a des déçus donc, et la majorité en profite pour leur tendre la main. Antoine Gignot, les anciens socialistes surtout.
Ce n'est pas un front populaire, c'est un affront populaire. Voilà ce qu'écrit Olivier Véran dans un long message posté sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Santé fustige l'accord trouvé entre le PS et la France insoumise, alliance baroque et déséquilibrée. Il accuse Jean-Luc Mélenchon de liquider la gauche de gouvernement et dit à ses anciens amis socialistes « Je fais appel à vos convictions, ce n'est pas vous qui quittez le parti, c'est lui qui vient de vous quitter ». Pour ceux qui ne font pas le choix de l'insoumission, nos portes sont grandes ouvertes, ajoute Stanislas Guérini, lui aussi ex-socialiste et délégué général d'En Marche, pendant que Clément Beaune, dans le journal Le Monde, appuie sur les points de discorde qui agitent la gauche avec cette phrase « Ceux qui changent la vie et l'Europe, c'est nous ». Mais La République En Marche n'est pas le seul mouvement à courtiser les socialistes. À gauche, le PRG, qui refuse toute alliance avec la France insoumise, s'engage désormais à soutenir toutes les candidatures dissidentes et propose de les regrouper sous la bannière « La gauche au réel, républicaine, écologiste, européenne et laïque ».
La photo de famille des candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, ce sera demain à Aubervilliers, en région parisienne. Jean-Luc Mélenchon, invité ce soir de France 2. Et demain encore, 7 mai, 5 ans jour pour jour après la première victoire d'Emmanuel Macron, sa nouvelle investiture, on la vivra ensemble à partir de 11h. Les dossiers ne manquent pas pour ce second mandat et le premier d'entre eux reste la gestion d'une inflation nouvelle dans le contexte de la guerre en Ukraine, de la flambée des prix des matières premières. Le plus dur est devant nous, disait hier le ministre de l'économie. Pour y faire face, la Banque centrale américaine a décidé d'augmenter ses taux d'1/2 point, c'est sa plus forte hausse en plus de 22 ans, et la Banque d'Angleterre l'a déjà déjà imité, plus d'un point. Ça agite forcément les bourses, Delphine Simon.
Oui, c'est le retour des montagnes russes sur les marchés. Hier, satisfaits par les annonces de la Banque fédérale américaine, ils ont terminé dans le rouge, pire séance hier depuis 2020 à Wall Street. Ce qui inquiète les investisseurs, c'est la surchauffe de l'économie américaine. L'inflation est au plus haut, 8,5%. Les salaires progressent très vite, entre 5 et 7% outre-Atlantique. C'est quasi le plein emploi. De quoi nourrir la spirale de l'inflation. Pour les marchés, la réserve fédérale américaine doit aller beaucoup plus loin qu'elle ne le fait, appuyer à fond sur la pédale des freins, augmenter très fortement les taux directeurs pour ralentir l'activité, quitte à casser la croissance. Des marchés pas inspirés par les chiffres de l'emploi américain qui ont retrouvé quasiment leur niveau d'avant Covid. En Europe, les places financières terminent dans le rouge, à l'image de la Bourse de Paris, moins 1,38%.
L'inflation qui ampute aussi l'épargne populaire, le livret A notamment, avec un indice des prix qui dépasse les 4%. La valeur du placement préféré des Français rémunéré à 1% forcément baisse aussi. La bonne nouvelle au rayon éco, ça reste l'emploi qui résiste bien. Malgré une croissance en panne sur les trois premiers mois de l'année, l'INSEE anticipe la création de 66 000 postes supplémentaires dans le privé. Des vaches un peu trop bruyantes. Ça fait 10 ans qu'il y a bagarre judiciaire entre Vincent Verchur, éleveur bovin de Saint-Aubin-en-Bray dans l'Oise, et ses voisins qui se plaignent des odeurs et du bruit de sa ferme. L'éleveur a été condamné en appel à verser plus de 100 000 euros de dommages et intérêts. Décision incompréhensible pour la FNSEA, le principal syndicat agricole, qui avait réuni aujourd'hui plus de 250 personnes dans sa ferme pour le soutenir, sa présidente Christiane Lambert.
L'agriculture, ça se passe à la campagne, par définition. Quand on a des vaches, des moutons, des cochons, il y a des moments où il y a des bruits, des odeurs. Donc on ne peut pas aller au salon de l'agriculture s'en réjouir et dire « chouette, la campagne vient à la ville ». Et quand on vient habiter à la campagne, vouloir une campagne aseptisée avec zéro défaut, zéro bruit, zéro odeur. Nous sommes dans un pays où les gens sont de moins en moins tolérants, c'est dommage. Moi, quand je vais à Paris, ça sent pas bon. Il y a des voitures, il y a du gaz carbonique, tous les trottoirs sont noirs, on salit ses chaussures. Et alors, c'est la ville, je le sais, et quand je retourne à la campagne, j'apprécie. Donc que chacun respecte le milieu dans lequel il va travailler ou vivre. Moi, j'attends surtout que la justice soit raisonnable. Je rappelle quand même que la famille Verchur a eu toutes les autorisations pour implanter son bâtiment, a même eu des prix reconnaissant la qualité de ses bâtiments. Donc ça a un côté totalement incompréhensible.
Christiane Lambert au micro France Bleu Picardie d'Arthur Blanc. Le parquet fait appel de la relaxe de ce vétérinaire jugé au tribunal correctionnel d'Angers pour avoir aidé un ami atteint de la maladie de Charcot à mourir. Il avait rédigé de fausses ordonnances. Et puis beaucoup d'émotions encore ce soir près de Grenoble. Un groupe de collégiens a été surpris hier par la brusque montée des eaux dans les cuves de Sassenage. Une guide spéléo est décédée.
Et maintenant cette question, pourquoi tant de doses de vaccins contre le Covid sont-elles jetées?
Le Danemark a annoncé en début de semaine qu'il mettra plus d'un million de doses de Moderna à la poubelle. 3,5 millions de sérum AstraZeneca en France, selon le journal Le Parisien. Bonsoir Sophie Becherel.
Bonsoir.
Comment expliquer ces stocks dont on ne sait plus que faire?
En raison du ralentissement brutal de la vaccination, couplé à des commandes très importantes. On injecte environ 12 000 doses par jour en ce moment, pour l'essentiel des rappels. En mars et avril, la France n'aurait utiliser que 2 millions de vaccins, or les plateformes débordent de stock. Selon les chiffres de Santé publique France, bien cachés, pas forcément facile d'accès, il y avait lundi 12 millions de doses de Pfizer disponibles, 21 millions de doses de Moderna et 34 000 d'AstraZeneca. Ce dernier vaccin, largement boudé, est celui qui est arrivé à date de péremption le plus tôt, donné prioritairement aux pays pauvres dans le cadre du programme COVAX. Il n'a récemment pas trouvé preneur. 2,3 millions de doses seront donc détruites ces prochaines semaines, auxquelles s'ajouteront 1,3 million d'autres doses que le pays receveur n'a plus voulu, alors même que les boîtes étaient prêtes à être acheminées. Le scénario pourrait se répéter pour les deux vaccins à ARN messager, Pfizer et Moderna. Même si la date de péremption a été allongée à 9 mois, les écoulées supposeraient un rebond des injections. La France a choisi d'avoir un stock stratégique de 50 millions de doses de vaccins en permanence pour pouvoir vacciner au cas où l'épidémie repartirait. Le risque de péremption et de destruction est inévitable.
inhérente à cette stratégie, fait savoir le ministère de la Santé.
Et si la cinquième vague a été plus forte que prévu, on s'en sort, confirme aujourd'hui le professeur Delfraissy, président du conseil scientifique. Il prévoit d'ici à la fin du mois de mai entre 5 et 10 000 cas par jour seulement. Allez, on va faire un détour par Madrid, parce qu'à 15 jours, à une quinzaine de jours du début de Roland-Garros, c'est une défaite qui marque Masters 1000. Bonsoir Fabrice Abgral.
Bonsoir.
Raphaël Nadal chute face au prodige Carlos Alcaraz en 3-7. Alcaraz, je le renomme en plus. En 3-7.
Vous n'êtes pas la première.
6-2, 1-6, 6-3.
Et pour bien mesurer les progrès et apprécier l'exploit de Carlos Alcaraz, il faut se souvenir qu'il y a un an, au même endroit à Madrid, le Murcian s'était incliné en 2-7 face à son idole, n'inscrivant que 3 petits jeux. Il avait 18 ans et il était 120e mondial. Aujourd'hui, il en a 19, qu'il a fêté hier, et il est 9e mondial. Alcaraz est présenté comme l'héritier naturel de Rafael Nadal. Mais de là à évoquer une passation de pouvoir, il y a une frontière que certains franchissent, mais pas tout le monde. Car il faut aussi relativiser cette défaite de Rafael Nadal. Le numéro 4 mondial reprenait la compétition à Madrid après un mois et demi d'absence en raison d'une fracture de fatigue à une côte. Or, il est évident aujourd'hui que Nadal manque de matchs, de confiance, de rythme et de repères. Alors, le temps presse maintenant pour Nadal à 16 jours de Roland-Garros où il visera un 14e titre. Cette défaite est un avertissement sans frais, mais un sérieux avertissement quand même face à cet Alcaraz dont on n'a pas fini de parler.
Carlos Alcaraz qui retrouvera donc en demi-finale, si je me trompe pas, Fabrice, le Serbe Novak Djokovic.
Le numéro 1 mondial.
Au Royaume-Uni, la reine va priver le prince Harry et son épouse Meghan de photos de famille, ainsi que le prince Andrew, mis en cause dans une affaire de trafic sexuel. Ils ne seront pas au balcon du palais de Buckingham pour l'une des cérémonies phares du jubilé d'Elisabeth II au début du mois de juin. Le choix du service culture nous emmène ce soir à l'espace des arts de Chalon-sur-Saône, où se joue Tout mon amour de Laurent Mauvigny avec Anne Brochet et Philippe Torreton. Histoire d'un couple dont la petite fille de 6 ans a disparu sans laisser de traces il y a plus de 10 ans. Un thriller psychologique saisissant, Stéphane Capron.
Les secrets de ce couple remontent à la surface le jour des obsèques du grand-père. Le mari croit apercevoir leur fille, disparue 10 ans plus tôt. Rêve ou réalité, le texte de Laurent Mauvigny sème constamment le doute dans ce polar métaphysique mis en scène par Arnaud Meunier.
Il ébranle les certitudes, on ne sait jamais exactement où on est. Et les comédiens d'ailleurs travaillent avec finalement peu de choses sur. C'est pas une construction de personnage de manière classique. Le comédien doit nourrir ça avec son instrument, avec son tempo et son émotion.
La mère est incarnée par Anne Brochet, un rôle tout en fragilité.
C'est un des rares personnages que j'ai eu dans ma vie, peut-être le seul, qui ne s'exprime pas avec des images. Contrairement à la jeune fille, son univers mental et verbal est image.
Quant à Philippe Torreton, il est une nouvelle fois à l'aise dans le rôle de ce père qui remue ciel et terre pour retrouver la trace de sa fille.
J'adore cette écriture à la fois toute simple mais mystérieuse, une écriture cabossée de gens qui ont du mal à faire des phrases, à aller au bout d'une phrase. Parce que c'est trop compliqué, trop lourd à porter, il y a plein de secrets. C'est un jeu de pistes, de fausses pistes ou de vraies pistes et on ne sait pas.
Tout mon amour est tout simplement du grand théâtre avec une tension permanente, une pièce qui fait dialoguer les fantômes et les vivants.
Tout mon amour, c'était le choix culture du vendredi de Stéphane Capron. Et quand la science s'intéresse aux biscuits fourrés, c'est une étude très sérieuse des chercheurs du MIT aux États-Unis. Parce que manger des BN, des Princes ou des Oreos est devenu un art. Croquer, tremper ou, et finalement le plus souvent, en les séparant en deux pour commencer par la crème au milieu, vous voyez ce que je veux dire? Et on constate à ce moment-là quasiment systématiquement que la garniture reste collée d'un côté. Bonsoir Bradley D'Souza.
Bonsoir
c'est
Hélène.
C'est justement le mystère qu'ont tenté de résoudre les scientifiques.
Oui, pour les chercheurs du MIT, l'Oreo mérite même un oréomètre, un instrument pour mettre le gâteau à rude épreuve. Jérémy Patarin est le directeur de Réonova, une entreprise spécialisée en rhéologie.
L'idée ici était de voir, en mettant différentes forces, différentes pressions, comment la crème allait se séparer, est-ce qu'elle allait se séparer en deux, rester sur un côté ou l'autre.
Conclusion, dans 95% des cas, la crème se retrouve seulement d'un côté.
La raison sur laquelle elle restait sur un côté ou l'autre dépendait surtout des conditions de fabrication du dit biscuit.
Cette expérience, c'est bien plus qu'une histoire de crème dans un gâteau, explique Jérémy Patarin.
c'est ce qu'on appelle une expérience de pelage, un peu comme du scotch, si vous voulez. Quand vous décollez du scotch, la question, c'est quel côté va rester l'adhésif, côté scotch ou côté surface.
Des intrigues qui ont de quoi faire saliver les industriels. Frédéric Bossard est le directeur du laboratoire Réologie et procédé à l'université Grenoble-Alpes.
Ça met en évidence le caractère viscoélastique de la plupart des matériaux, c'est-à-dire qu'ils ont une facilité à vouloir s'écouler ou à vouloir être plutôt solides en fonction de la façon dont on les sollicite. Par exemple, pour la cosmétique, il faut que la texture de la crème soit agréable à appliquer.
Et la crème dans les Oreos peut-elle se retrouver sur les deux faces du biscuit ? Eh bien oui, disent les chercheurs du MIT, il faut la rendre plus molle et donc la garder dans une atmosphère plus chaude et plus humide.
Voilà, c'est un sujet parfait, à la fois sérieux pour les passionnés de la mécanique des fluides et pour les gourmands. Vous aussi, vous avez qu'à faire de l'oréologie à la maison, maintenant vous avez une bonne excuse. Et puis pour les plus gastronomes, on rappelle que Dijon inaugure aujourd'hui sa cité de la gastronomie et du vin. Et le service web de France Inter vous a fait un petit quiz pour savoir si vous êtes plus pâtisserie fine qu'oréo, en tout cas, si vous y connaissez quelque chose en gastronomie. Mon dernier mot sera pour les amis en technique, pour les remercier de ceux qui étaient aux manettes des journaux cette semaine, Clément Berman et Michel Bézikian.
On apprend des choses en écoutant votre journal, Hélène Fili, incroyable. J'espère. Merci mille fois et je ne veux pas vous dire bon week-end, je dirai à demain matin, c'est demain, ça, pour la cérémonie d'investiture.